Nous sommes sur les routes de l'Eldorado. Je regarde la carte, je vois l'Amérique. Je rêve de posséder ce que les Espagnols possèdent déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons partir à la recherche des grands trésors de l'Amérique. Mais nous allons surtout tenter de les intercepter. Nous allons accompagner les plus grands corsaires du monde. Les Français d'abord, les Anglais après. Nous terminerons avec Drake. Nous referons une fois le tour de l'Amérique. On est de nouveau dans les grandes découvertes. Nous avions décidé de partir de la Grand Place de Bruxelles. Un endroit qui fait rêver, c'est vrai que tout est doré. C'est un endroit merveilleux, c'est un endroit qui me fait penser à cette Espagne du Nord, à cet étrange lieu où est né Charles, Charles qui va devenir Charles Ier en 1516, qui va devenir Charles Quint en 1519, Charles né à Gand en 1500. Or, lorsqu'il a 21 ans, 22 ans, on reçoit en Europe une partie d'un des trésors les plus fabuleux du monde. Celui envoyé par Cortés, qui vient de prendre le Mexique. Le 13 août 1521, le dernier empereur, le dernier Tlatoani aztèque, se rend sur la place de Tlatelolco, celle qu'on appelle aujourd'hui la place des trois cultures, au cœur même de Mexico City, au cœur même de Mexico Tenochtitlan. À partir de là, on rafle le meilleur des Aztèques, on l'envoie en Europe. Mais attention, ce que vous verrez à Bruxelles, c'est trois fois rien. Je sous-tends par là que ce que Dürer, car c'est le seul témoignage que nous ayons, Dürer, le grand dessinateur, celui qui avait un don de l'observation extraordinaire pour son époque, a pu observer à Bruxelles, ça n'est qu'une toute petite partie du trésor de Cortés. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous découvriez qu'en fait, ce que nous croyons avoir possédé en Europe, ce que l'Espagne a prouvé qu'elle avait, eh bien non, ça n'est pas forcément le meilleur de l'Amérique. Le meilleur, il est à Dieppe, il est à Londres, il est effectivement un jour ou l'autre aux mains des corsaires. C'est vrai que quand aujourd'hui on tient à voir quelques beaux trésors de cette Amérique en Europe, il faut aller au British Museum à Londres, mais il n'y a que quelques pièces essentielles. Il faut aller jusqu'au mois de juillet à Paris, parce qu'il y a une exposition spéciale pour voir des objets qui sont ramenés du Mexique et qui, en principe, appartiennent aux grands musées américains. Ça, c'est une exposition que je me réjouis de commenter sur place. Et si vous allez en Belgique ou en Espagne, eh bien rien. Non, il ne reste pratiquement rien. Donc ce sont plutôt les vols voleurs qui ont conservé le meilleur, car Dürer, à Bruxelles, aura vu des pièces qui lui paraissent des merveilles d'orfèvrerie, de qualité artistique, et tout cela sera naturellement fondu. Alors, obligatoirement, quand on veut parler de l'Eldorado, quand on veut parler de ce monde étrange, ce monde parallèle, il faut le situer. Le doré, c'est un mythe qui existait déjà dans notre Moyen-Âge européen. Puis les Espagnols vont le traduire par El Dorado. Or, El Dorado, tout à coup, va devenir quelque chose de tangible lorsqu'on touchera l'Amérique. C'est-à-dire qu'on va s'imaginer que il y a un pays, qu'il devrait exister un pays, bien sûr imaginaire au départ, dans ce continent nouveau, et que ce pays devait, d'une façon ou d'une autre, renfermer des richesses incroyables. Alors, le mythe est parti d'une histoire toute bête. La première fois où je suis allé en Colombie, je me suis rendu compte que ce mythe était resté très fort, car c'est le pays qui a produit peut-être le plus de bijoux en or. Mais près du lac Guadavita, on raconte une histoire que les premiers colons, et surtout les premiers conquistadors, ont dû entendre. Au XVIe siècle encore, on prenait le chef indien de la région. On le laissait nu sur la plage, on le recouvrait de résine ou peut-être de miel, enfin quelque chose qui colle bien, et on le roulait carrément dans de la poudre d'or. Et il était totalement doré. Et voyez l'image, un lac extrêmement calme, beaucoup de végétation autour, cet homme qui maintenant est doré de la tête aux pieds et qui, à l'heure du soleil levant, pénètre petit à petit dans l'eau. Et en s'avançant dans l'eau jusqu'à mi-corps, jusqu'à ce que sa tête émerge encore comme un objet doré, brillant, eh bien, il va se laisser descendre dans cette eau, attendre que l'or puisse petit à petit se décoller de son corps. Et à partir de là, tout le peuple assemblé, toute la tribu montée sur des radeaux, montée sur des canoës, lance au centre du lac leurs plus beaux objets d'or. Écoutez, c'est ça le mythe de l'El Dorado. Le doré a vécu, il a existé en Colombie. On va le rechercher dans toute l'Amérique. Partons le chercher. Nous avons porté le chef indien en procession jusqu'au bord du lac sacré. On l'a embarqué sur un bateau, on l'a conduit jusqu'au milieu. Il est descendu dans l'eau, il a plongé dans cette eau pour y demeurer jusqu'à ce que cette poudre d'or se décolle de son corps. Mais ce qui est important, ce sont tous ces gens au bord de la plage qui lancent des objets d'or dans ce lac. Je reparle de l'or parce que dans les 50 années qui vont suivre la découverte de Christophe Colomb, toutes les Antilles d'abord, et mon Dieu, s'il y a des légendes déjà aux Antilles. L'isthme de Panama, nous le traverserons tout à l'heure. La Floride, le Mexique, le Pérou, tout cela va être soumis à l'Espagne. Mais jamais auparavant, aucune nation du monde n'a pu dominer un empire aussi vaste et aussi incroyable. Et surtout, l'opulence, cet or, cet argent, cette richesse. Car la réalité, eh bien, elle est bien supérieure à tout ce qu'on avait pu rêver. Car au Mexique, il y avait effectivement des pierreries qui étaient enchâssées dans les murs des palais. C'est vrai qu'il y avait de l'or et de l'argent dans des quantités absolument inimaginables. Et puis au Pérou, on disait que les toits étaient recouverts d'or. Mais c'était vrai. Il y avait ces légendes qu'on répétait sans oser vraiment y croire. Les murs des temples étaient couverts de feuilles d'or. On arrivait par des chemins dallés d'argent. On prétendait que les gens n'avaient qu'à décoller les dalles de ces chemins pour rentrer à la maison. Les Andes, ça fait d'abord penser à cette montagne de Cerro, Potosí. Nous irons peut-être un jour à Potosí pour se retrouver devant une montagne entière d'argent, la troisième ville du monde au XVIIIe siècle, uniquement parce que tout à coup, on a eu cette fièvre de l'argent. Les gens étaient nobles, étaient habillés comme personne n'était habillé en Europe, là-bas, tout au fond de la Bolivie, enfin le Haut-Pérou de l'époque. Les Andes, les émeraudes. Ces mêmes émeraudes de Colombie, les saphirs, les diamants, et puis les plages du Pacifique avec des perles aussi grosses que celles dont on pouvait rêver dans les contes des mille et une nuits. La beauté de ces perles. Bon, on n'avait jamais prévu autant de merveilles. Toutes ces richesses, elles vont prendre petit à petit le chemin de l'Espagne, ces trésors qui ont été amassés par des générations d'Aztèques, par les Incas, ces œuvres d'art de civilisations qui, on le sait aujourd'hui, étaient millénaires, ces bijoux, des bijoux simples, du simple indien qui offre ce qu'il a. Mais les choses somptueuses aussi des grands chefs, les trésors de ces grands chefs. Tout ce qu'on va pouvoir arracher, en fait, à l'Amérique, va petit à petit être entassé sur des bateaux et partir à destination de Cadix, tout d'abord, de Séville, de Palos. C'est un fleuve d'or qui commence maintenant à couler vers l'Europe. Vous êtes en Europe, vous êtes un marin, vous vivez le long des côtes françaises et vous entendez parler de tout cela. Cette nouvelle incroyable qui vous dit que des navires espagnols rapportent des trésors. Ben, c'est vrai que toute l'Europe va être impressionnée par cela. Alors, dans les premières années, personne ne bouge parce que le pape avait édicté des lois très précises, etc. Mais attention! Si vous prenez la carte une fois de plus et que vous remarquez que le Cap Saint-Vincent était véritablement le point d'arrivée de tous ces navires qui venaient d'Amérique, bah, je crois que c'est l'endroit qu'on choisirait tous pour aller se mettre à l'affût et attendre. Alors, je vais parler de quelqu'un de bien précis, quelqu'un qu'on connaît assez peu dans l'histoire, un certain Jean Angot. Jean Angot, c'était un homme de Dieppe. Oh, ça n'est pas n'importe qui parce qu'il va reprendre une initiative assez curieuse, c'est-à-dire qu'il est armateur. C'est un des premiers qui va envoyer les navires d'abord en Terre-Neuve. Et il va essayer de développer un peu ses affaires paternelles. Et ce qu'il va chercher surtout, son obsession, c'est de trouver ce qu'on appelle à l'époque les Grandes Indes. C'est-à-dire qu'il voulait contourner l'Amérique du Sud, c'est une obsession déjà qu'on a vécu surtout avec Magellan, et ou alors éventuellement suivre cette fameuse route portugaise avec le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, et son activité, bah, on va le voir très rapidement, ça ne va pas s'arrêter à du simple commerce, non, parce que il y avait des problèmes à l'époque. Il y avait des problèmes très impressionnants avec ce qu'on appelle la Sainte Ligue, qui était coalisée totalement contre la France, et les corsaires, bah après tout, ils font un peu les affaires de l'État, on va le voir tout à l'heure avec l'Angleterre, c'est la même chose. Donc Angot, il va être celui qui va prendre part à cette lutte avec peut-être le plus d'ardeur en France, mais c'est celui aussi qui va s'enrichir de façon incroyable. Revenons maintenant à ce Cap Saint-Vincent. Placez-vous au bout de ce cap, et attendez, mettez-vous à l'affût. C'est là, juste justement qu'en 1521, les fameux corsaires de notre Angot vont enlever, on peut dire, c'est une sorte d'enlèvement, trois caravelles qui étaient chargées de marchandises, qui c'était des négociants qui avaient envoyé tout cela depuis Séville. Et comme obligatoirement les Espagnols vont se plaindre, c'est une des premières fois qu'on a vraiment un choc avec des corsaires, le gouvernement a décidé pour la première fois d'armer une escadre afin de garder, si vous voulez, les approches de ce cap Saint-Vincent qui était très vulnérable. Alors les corsaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord simplement échanger quelques coups de feu, enfin quelques coups de canon, pour être exact, à distance. Ça, bon, ils n'ont pas eu de problème non plus quand on leur envoyait ces mêmes coups de canon à l'autre bout. Donc, comme ils ont remarqué que l'Espagne était un peu trop surveillée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il suffit de pénétrer dans la mer et d'aller un peu plus loin. Ils vont se mettre à tourner autour des Açores. J'avoue que la première fois où j'ai atterri aux Açores, c'est un hasard. De temps en temps, il y a des grèves du ciel où tout à coup, un DC-9 ne fonctionne plus, où il y a un détournement. Alors j'ai atterri avec un petit DC-8 et j'ai été bloqué aux Açores. Vous êtes vraiment dans un drôle d'endroit. On parle toujours en météorologie des Açores. Les Açores, qu'est-ce que c'est? Quelques petits îlots dont le principal, Santa Maria, est perdu vraiment en plein cœur de l'Atlantique. C'est une borne obligatoire. Quand vous avez une caravelle et que vous partez du Mexique, que vous partez d'Hispaniola, de Cuba, que vous partez des Antilles, vous êtes obligé de passer aux Açores. Donc c'est là que, il faut bien comprendre que les atterrages, comme on les appelle, d'Espagne, qui étaient beaucoup trop surveillés, vont pouvoir être déviés. Je veux dire par là qu'on va se transporter jusque-là, jusqu'aux Açores, parce que à ce moment-là, ils devaient de toute façon relâcher et pour prendre de l'eau, tout simplement, pour acheter quelques vivres. Alors, en 1522, ça c'est l'événement du moment, c'est Jean Fleury. Ça n'est pas notre fameux Angot, mais il commandait 8 bâtiments qu'Angot lui avait remis, et il montait sur un bateau qui est très connu, qui s'appelle le Dieppe. Il est connu parce que un navire de 300 tonneaux à l'époque, ça n'est pas si courant que cela, et il va faire une des prises les plus incroyables qu'aient connu les corsaires. Moi, ça me fait totalement rêver, parce que imaginez-vous maintenant, vous êtes au large des Açores et vous apercevez tout à coup des caravelles, et vous arriverez à obtenir en quelques minutes le trésor de tous les rois, de tous les Tlatoani, de tous les empereurs du Mexique. Ce trésor qui a été envoyé spécifiquement par Fernando Cortés, pour l'Espagne, et qui a été envoyé sur 3 caravelles. Alors, montons sur ces 3 caravelles. Imaginons ce qu'on avait chargé à Veracruz au moment de la prise de Mexico, pour prouver en fait à l'Europe, mais surtout bien sûr à la chrétienté, mais surtout bien sûr aux grandes Espagne, que l'entreprise de Cortés, qui avait fui l'île de Cuba, qui avait trahi en fait la couronne et les droits de la couronne, pour prouver simplement qu'il avait eu raison de prendre le Mexique. Alors qu'est-ce qu'on y voyait? Il y a surtout un objet qui moi me fascine, parce que j'aimerais savoir où il se trouve aujourd'hui. Il est peut-être à votre doigt, madame, il est peut-être chez un bijoutier du coin. C'était une émeraude incroyable comme grandeur, en forme de pyramide, dont la base était plus grande qu'une main ouverte. Pour une émeraude, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Une pyramide faite dans cette matière, ça doit bien peser un kilo et demi. Je n'en ai jamais revu de si belle dans le monde. Il y avait, c'est normal, les Aztèques comme les Incas utilisaient, plus tardivement c'est vrai, de la vaisselle d'or, de la vaisselle d'argent, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, enfin, des bijoux de toutes sortes, autant pour les hommes d'ailleurs que pour les femmes. Je dirais même surtout pour les hommes de la noblesse. Et il y avait ce qu'on voit dans les grands musées du monde, c'est-à-dire toutes ces idoles qui étaient enchâssées avec des pierres fines. Et c'est vrai que c'était des objets que Cortés a voulu envoyer en Europe pour être observés, parce que c'était vraiment le cabinet des curiosités. Ormond Durer, de tout à l'heure, n'a vu que les restes de ce trésor, puisque quelques pièces ont pu être sauvées, quelques caravelles plus tardives ont pu passer sans être prises par les corsaires. Bon, il y avait aussi des objets qui me paraissent tout aussi intéressant, parce qu'ils ont disparu. Ce sont naturellement tous ces vêtements, ces costumes incroyables, ces ornements que les Aztèques utilisaient. Et puis il y avait déjà des choses que les Espagnols avaient certainement transformées, c'est-à-dire des lingots bien sûr, mais peut-être même on parle d'armement, c'est-à-dire d'armure ou éventuellement de couleuvrine qui étaient fondues dans l'argent du Mexique. On avait déjà profité de faire quelques objets à partir de ce premier trésor. Il y avait des fourrures aussi, des vêtements de plumes, la plumasserie aztèque, c'est était peut-être le trésor pour eux le plus précieux. Donc ils ont souvent offert aux Espagnols des objets d'une qualité rare en plumasserie. Quand on pense à la grande coiffe de l'empereur Montezuma, elle fait presque un mètre de diamètre. Vous avez cette image d'un grand Sioux dans la tête, hein, nos images d'enfance. Les Aztèques s'habillaient avec des plumes encore plus raffinées et des couleurs surtout extraordinaires. Tout cela était certainement donné avec un tas de vêtements. Et puis il y avait surtout des milliers de plaques d'or, des objets artistiques fantastiques, des choses historiques. Il devait y avoir peut-être même une petite bibliothèque avec des codex et des ouvrages précolombiens qui naturellement ont disparu. Alors, ce qui moi me paraît fantastique dans cette histoire, c'est que notre brave Fleury a peut-être réussi à prendre d'abord deux des caravelles à cause d'un incident. Alors, vous n'allez jamais imaginer ce qui a pu se passer à bord. C'est-à-dire qu'en partant de Veracruz, il y a eu un gros problème au cours de la traversée jusqu'aux Açores. En fait, on avait voulu offrir un animal qui n'existait pas en Europe. Cortés avait envoyé l'animal mythique le plus impressionnant du Mexique, le jaguar. Donc, il avait enfermé plusieurs jaguars dans des cages, et pendant la traversée, ces jaguars s'étaient échappés des cages et avaient tué toute une partie de l'équipage d'une des caravelles. Alors, vous pensez bien qu'obligatoirement, ces dizaines d'hommes qui avaient été blessés ou tués n'ont pas pu se défendre au moment de l'attaque des corsaires. Et donc, il n'y avait eu aucune résistance à Fleury. Alors, si je parle de ces expériences qui paraissent un peu malheureuses au départ, je crois que c'est quand même pour comprendre que ce qui est fantastique, c'est que ces caravelles, peut-être le plus grand trésor avec celui des Incas qui est traversé la mer, est parti sans une seule arme. C'est-à-dire sans aucune défense. Les Espagnols étaient tellement maîtres de la moitié du monde, étaient tellement sûrs que personne ne les dérangerait, qu'ils sont partis de Veracruz jusqu'aux Açores sans aucune défense. Alors, ce qui est encore plus fou, c'est que par la suite, on va pouvoir réattaquer la dernière caravelle qui avait échappé, c'est-à-dire cette troisième qui manquait, qui s'était abritée en catastrophe à Santa Maria, cette petite île dont je vous parlais tout à l'heure, celle des Açores. Et là, on était d'ailleurs venu de Cadix, parce que les nouvelles étaient quand même parvenues en Espagne, qu'une attaque avait eu lieu. On avait fait venir du renfort de Cadix. Et bien, malgré tout, Fleury a réussi encore à s'emparer de ce dernier bateau. 62 000 ducats, j'ai des chiffres très précis. Il a eu 150 kilos de perles fines et 30 tonnes de sucre. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, le sucre, hein? Un des produits qui va faire la richesse des Antilles, d'ailleurs. J'aurais voulu retrouver la chose que j'aurais voulu que les Français ne volent pas, c'était le rapport de Cortés. Ce rapport sur toute sa conquête du Mexique qui a disparu. Et puis, pour les marins d'Yepoix, La plus grande prise, peut-être, sur ces trois caravelles, eh bien, c'était bizarrement les cartes des pilotes espagnols. Car obligatoirement, ceci était prévu afin de créer d'autres expéditions futures vers la mer des Antilles. Et d'un seul coup, les Français vont connaître toutes les routes espagnoles. Vous voyez qu'une simple prise de piraterie, un travail de corsaire peut s'avérer extrêmement valable. Et je vais vous donner une ou deux citations qui me reviennent comme ça en mémoire. Quand on parle de ce qu'étaient vraiment les corsaires à l'époque, ça, c'est vraiment la chose que Charles Quint va le moins supporter. Il a déjà les protestants sur le dos, le pauvre, il est monté au pouvoir en 1519, mais là, pendant tout ce 16e siècle, jusqu'à son abdication, puisque c'est Philippe II qui va reprendre le pouvoir, eh bien, Charles Quint va souffrir de ses corsaires, de toutes ces guerres à la fois religieuses, parce qu'après tout, c'est un peu l'idée aussi. Hein. Vous allez le remarquer tout à l'heure, quand on parlera de l'Angleterre, c'est devenu en même temps une sorte de guerre de religion, d'une cruauté absolument époustouflante, autant contre les Portugais que contre les Espagnols. Mais le vice-roi des Indes avait écrit, quand je dis vice-roi des Indes, vous comprenez bien que je parle des Indes occidentales, c'est-à-dire le vice-roi du Mexique, écrivait à Charles Quint que les corsaires français étaient maîtres, en fait, de toute la mer des Antilles, autant que Charles Quint était, lui, maître du simple Guadalquivir. C'est vous dire à quel point il y avait de l'amertume là-dedans. Et puis tout cet or qui avait été enlevé aux Espagnols, ça c'est une remarque personnelle, ben, je crois que les corsaires n'avaient aucun complexe, ils savaient terriblement bien que les Espagnols avaient arraché cet or aux Indiens, avec un certain mépris, c'est vrai, on voit les écrits de l'époque, la cruauté de ces gens-là, il n'y avait aucune loi humaine, plus beaucoup de lois divines. Lorsqu'on a passé le cap des découvreurs, qu'on arrive chez les conquérants, c'est quelque chose de terrifiant. Donc si le vol à main armée, ben, je sais que c'est blâmable, c'est vrai, mais ceux qui l'exerçaient, enfin, s'ils prenaient comme ça leur butin, ils pensaient qu'ils avaient quand même droit comme brigands à certaines circonstances atténuantes, je crois qu'on est bien d'accord, non? C'est vrai que ces quelques petites remarques, ça nous amène aussi à comprendre que Charles Quint, ce même Charles Quint, juste avant d'abdiquer, ben, lui, il avait eu, c'est vrai, une certaine... comment est-ce qu'il faut dire ? Il avait une certaine réussite sur le plan politique en Europe. Il avait quand même réussi à maintenir certaines choses, mais ce qu'il avait surtout dit à son fils, c'était sa recommandation. Je la vois encore, enfin, je l'ai lu en français parce que Charles Quint parlait couramment le français. Tout son acte d'abdication a été déclamé en français. Et il disait à Philippe II, quant aux Indes occidentales, eh bien, tu devras toujours avoir un œil afin de surveiller quelques expéditions clandestines de ces fameux Français. Et quoique ils aient souvent entrepris d'y aller, bah, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que rien ne dure avec les Français. Quand on leur résiste, ils abandonnent la partie. C'est une très belle phrase, parce que si je vous donne cette clé, c'est de comprendre que les corsaires français ont eu à un moment donné leur pouvoir absolu dans les Antilles. Ils ont touché le Brésil, ils ont touché l'ensemble de l'Amérique, non seulement Terre-Neuve, non seulement le Canada, non seulement la côte de ce qu'est aujourd'hui ce que sont les États-Unis, mais également tout le Sud. Bah, il suffit de dire non, non, non et non, et finalement, il n'y a plus de Français en Amérique. Thank you. puisque nous sommes partis à Gand en 1500, puisque nous étions à Bruxelles. Repensons à Charles Quint. Je vous ai dit qu'il était né en 1500. Il avait 13 ans. Il avait 13 ans quand tout à coup quelqu'un a découvert ce qu'on va appeler la Grande Mer du Sud. Un événement fantastique. Allez, on va partir sur les traces de Balboa. Nous sommes en 1513, vous l'avez compris. Nous n'avons que 150 kilomètres à couvrir. Ça n'est pas grand-chose. Et pourtant, il faudra 20 jours à la troupe pour arriver à traverser cet isthme de Panama. Les araignées, les serpents, les embuscades des Indiens, perdre d'un seul coup la moitié de l'expédition, des hommes de cette expédition. Je ne sais pas si vous connaissez Panama, mais aujourd'hui encore, que ce soit en avion, que ce soit en bateau, à pied, je ne l'ai jamais fait, j'ai seulement tenté de survoler cet endroit. La Panaméricaine n'y passe même pas. C'est encore ce même climat, cette même horreur au point de vue climatique. Parce qu'au bout du 20e jour, eh bien, ce détachement de Balboa va arriver au pied d'une colline. Il y a une odeur très spéciale. Vous savez, dans la jungle, on ressent ce côté suffocant. On a quelque chose de lourd, une odeur de putréfaction assez curieuse. Et tout à coup, on sent, là, au pied de cette colline, une sorte d'arôme un peu plus acide, je vais dire salé. On respire un parfum de sel, d'algues. Et là, alors, Balboa comprend tout de suite. Il saisit son épée, il gravit lentement, et seul d'ailleurs. Ça, c'est très propre à tous ses conquérants, à ses découvreurs. Il monte seul les pentes de la colline, et le voilà au sommet. Ses compagnons, ils le voient s'agenouiller, ils le voient faire quelque chose, ils lèvent les bras au ciel, ils le rejoignent, et en bas, de l'autre versant, enfin de l'autre côté, quelque chose d'immense, quelque chose de bleu miroite sous le soleil des tropiques, c'est la mer. Ben voilà, tel Christophe Colomb, lorsqu'il l'a fait dans les Antilles, Balboa chante maintenant le Te Deum et il fait dresser par un notaire un procès-verbal sur cette découverte. C'est intéressant, c'est pour voir à quel point ces gens-là ont toujours été accompagnés d'un prêtre, d'un notaire. Ça, c'est le problème des conquistadors. Il faut légaliser une conquête spirituelle et en même temps une conquête matérielle. Ensuite, on va contresigner l'acte. Alors, il y aura tous les Espagnols présents qui vont signer. Il y a une signature qui m'intéresse. C'est une croix. C'est celle de Francisco Pizarro, celui qui ensuite va descendre plus bas et prendre le Pérou. On grave les initiales du roi d'Espagne sur l'écorce des arbres et on fait cela en signe de prise de possession, si vous voulez. Il n'y a plus qu'à descendre, enfin, il reste uniquement cette descente vers la mer inconnue à faire. Mais juste avant, il faut encore préparer sur la montagne une grande croix de bois. Et 3 jours après, enfin, parce que nous étions loin, au sommet de cette colline, on aperçoit, on foule véritablement le rivage de l'océan, de ce nouvel océan. Seul, le premier, comme au sommet de la colline, Balboa va toucher cette eau étincelante. On dit même que c'est son chien. Ça, j'aime bien cette histoire de penser que le chien va dépasser le conquérant et toucher le premier, le Pacifique. Parce qu'à marée basse, on peut s'avancer très loin vers la mer. Vous le voyez, il a son armure, il a son casque, il a son épée qui est sortie du fourreau, qui flamboie dans la lumière. Il brandit aussi la bannière de Castille et d'Aragon. Il entre dans la mer jusqu'à mi-corps. Il prend possession au nom de Ferdinand et de Juana, souverain de Castille à cette époque, de Léon aussi et d'Aragon. Il prend possession de cette océan méridional avec ses ports, ses îles et ses côtes, possession royale, corporelle, actuelle et éternelle. Mon Dieu, il faut être espagnol. Quand je vous disais que les Français n'ont rien gardé, qui va revenir quelques années plus tard, 60 ans plus tard? Un Anglais, bien sûr. Ce geste très espagnol de Balboa, il rappelle aussi cette façon de jouer sur la reconquête et la conquête de l'Espagne. C'est exactement comme cela que les chevaliers du Moyen-Âge reprenaient les terres, reprenaient les bords de mers espagnoles aux Arabes. Mais en récompense de cette équipée absolument folle, Balboa va recevoir le titre d'Adelantado de la mer du Sud. Comment est-ce qu'on pouvait nommer autrement cet océan aux eaux tellement tranquille que plus tard on appellera le Pacifique. Je parlais des Anglais qui, quelques années après, serait présent à Panama, mais on pourrait parler quand même des Français, ou en tout cas d'un Français qui apparaît 4 siècles plus tard, bien sûr. C'est celui qui va renouveler le geste de Núñez de Balboa, c'est Ferdinand de Lesseps. Il y a plusieurs villes qui ont été construites autour de cet isthme de Panama, dans cette région du Darién, parce qu'obligatoirement, à partir de 1513, tout va s'accélérer tout d'abord. Il y aura une ville qui va s'appeler Nom de Dieu, Nombre de Dios. Là, alors, elle est carrément construite, je veux dire, du côté atlantique, ça vous simplifie la tâche. Et de l'autre côté, on va construire Panama. C'est un axe absolument fantastique, car si je parlais de 60 années entre 1513 et 1573, c'est pour faire la nuance. Pendant ces 60 ans, on va découvrir tout le sud de l'Amérique et Panama, Nombre de Dios, Cartagène beaucoup moins sur le plan colombien, mais ces deux ports vont devenir les deux pôles absolus de toutes les richesses péruviennes. Je m'explique. Quand vous partez de Lima, vous montez en bateau jusqu'à Panama, vous déchargez les bateaux, vous partez avec des mules, vous traversez, vous refaites cette traversée incroyable et vous débarquez, enfin vous déchargez plus exactement de l'autre côté et vous mettez tout cela sur vos bateaux qui repartent en Espagne. D'ailleurs, si on voulait construire un bateau du côté panaméen, un nouveau bateau pour revenir sur Lima, il fallait prendre les planches, il fallait prendre les voiles depuis l'Espagne ou depuis la bordure en tout cas de Nombre de Dios et reconstruire le tout de l'autre côté, tout en l'ayant chargé, toujours, à dos de mulet. Alors, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Francis Drake, on en a déjà un peu parlé sur cette antenne, mais ce qui est sûr, c'est que lui a une idée tout à fait précise. Il a déjà fait une belle attaque sur Cartagène, il a déjà taquiné Nombre de Dios plusieurs fois, c'est un grand corsaire. Son idée, c'est d'échafauder un projet absolu d'attaque, mais de l'autre côté de l'isthme. Mais c'est une idée totalement révolutionnaire. Personne, aucun Anglais n'a encore vu le Pacifique. Eh bien, lui, en 1573, il sort de son bateau, très beau nom, il s'appelait le Pacha, à la tête d'une cinquantaine d'hommes. Ben, il y a seulement 20 Anglais, c'est vrai. Mais ils sont tous extrêmement bien armés, ils ont des vivres, ils sont pleins d'enthousiasme, et ils refont la traversée de l'isthme comme l'avait fait quelques années auparavant notre Balboa. Parce qu'ils vont la refaire à travers la forêt, à travers cette brousse, par une chaleur toujours aussi écrasante, au milieu de cette végétation tropicale. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent éviter la route qui a été construite entre les deux villes. Et Drake, bon, il ne serait jamais arrivé au but si les Indiens ne les avaient pas aidés, s'ils n'avaient pas été conduits par ces indigènes qui portaient d'ailleurs leur fardeau, s'ils n'avaient pas su, grâce à eux, construire des abris de branches ou de feuillage, s'ils n'avaient pas su surtout cueillir des fruits et trouver de l'eau pour se désaltérer. Donc, après là seulement 4 jours de marche extrêmement difficile, ils arrivent au même point que notre Balboa, c'est-à-dire au sommet de l'isthme. Et là, le chef, c'est une race assez peu connue, les Cimarrones. Les Cimarrones le font grimper au sommet d'un grand arbre qui est aménagé en observatoire. Et là, ils découvrent vraiment cette immense étendue de pays. Bah, ils voient ces forêts qui sont... Il y a un ton extrêmement curieux dans cette jungle, ce côté vert sombre. Et puis au loin, ils voient surtout cette bande argentée. C'est-à-dire au nord, ils voient l'Atlantique. Et au sud, ils voient le Pacifique. Et oui, il est effectivement le premier Anglais à voir ce Pacifique. Et Drake, tout Anglais qu'il est, se jette également à genoux. Il remercie Dieu. Il jure de naviguer un jour sur cet immense océan. Et c'est beau, cette idée. Vous êtes à Panama et lui promet qu'un jour, il se baladera sur le Pacifique. Et il sait déjà qu'il tiendra son serment, qu'il réussira effectivement un jour à contourner, comme l'avait fait Magellan, tout le continent.
Thank you.
une musique d'ambiance. Une musique d'ambiance pour montrer que même un Drake, même à cette époque anglaise, qui n'a plus grand-chose à voir avec ses premiers découvreurs, ses premiers conquérants hispaniques, là, vous arrivez déjà dans cette Angleterre qui devient protestante et qui a envie d'attaquer tout le reste des catholiques, tout le reste des papistes. Non, ce qui m'intéresse, c'est que maintenant que Drake a promis un jour de voguer sur les eaux du Pacifique, il lui faut encore 4 jours à traverser marécages, à traverser forêts, pour atteindre une colline, où là, il va dominer, à très peu de distance, la ville qu'il a choisie comme étant le but de l'expédition. Il voit cette ville de Panama. Ça n'est pas rien, Panama, puisque je vous dis que depuis maintenant 1533, grosso modo, nous sommes en 1573, eh bien, tout l'or du Pérou a déjà passé par là. Et il aperçoit, effectivement, non seulement ces incroyables églises, ces palais, ces navires qui sont présents dans le port, mais tout à coup, il voit le plus grand des vaisseaux, celui qu'on appelle le vaisseau d'or, celui qui vient justement du Pérou et qui est exclusivement en fait affecté pour transporter ce métal précieux. Donc, toute la flotta, toute cette flotte était là. C'était le bonbon, mais malheureusement, enfin, je ne veux pas parler de cet échec parce qu'il est un peu triste, ils vont attaquer un peu trop près de la ville et malheureusement les gens seront mis au courant et en fait ils ne trouveront que des marchandises à manger. C'est-à-dire qu'on va, on va garder au contraire toutes les richesses à Panama et Drake là va se trouver un peu bec dans l'eau. Alors là, il jure de bien se venger. Il revient en arrière et là, il se dit cette fois, pour retrouver cette route, on les appelle les recuas. Les recuas, ce sont ces immenses expéditions de mulets qui arrivent comme cela d'un côté et qui débarquent de l'autre. Alors cette fois, il se dit, je vais faire ça. Au lieu d'arriver, il n'y aura plus moyen de reculer. Donc je vais me placer beaucoup plus près de Nombre de Dios. Alors, c'est une attaque qui a réussi merveilleusement bien, celle que j'ai envie de vous décrire maintenant. On voit ces assaillants, vous voyez ces corsaires, hein, c'est vraiment l'idée des vrais pirates comme ça, qui se précipitent sur les sacs, sur les caisses qui sont chargées sur ces mulets. Et cette fois, bon, ils ne vont pas être déçus, puisqu'en quelques instants, toute la route, cette route qui était pavée, qui était spécifique, qui était vraiment l'autoroute des Amériques, cette route, elle est maintenant jonchée d'or, d'argent et de pierres précieuses. Le plus difficile maintenant, c'est d'emporter toutes ces richesses. Il n'y a que quelques dizaines de personnes pour porter tout cela. Alors, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Ils enterrent le reste, ou alors, et ça nous le savons, ils le jettent dans le Chagres. Le Chagres, c'est une rivière qui passe par là, et ils espèrent un jour venir reprendre leur trésor. Ils s'éloignent, maintenant on les voit, ils sont lourdement chargés, ils partent à travers la forêt. Et les 3/4 de l'effectif, seulement, vont rejoindre avec leur butin les navires qui attendent. Et ça va être gentiment partagé entre les Anglais et les Français qui sont présents. C'est quand même une belle prise, non ? Francis Drake, Bah, ce n'est pas un homme qui va se laisser facilement dominer, ça vous l'avez déjà compris. Cette idée de venir depuis l'Angleterre et de traverser Panama au milieu des terres et des navires espagnols, c'est quelqu'un qui est complètement fou. Et il va faire une folie qu'il vient de vous promettre au sommet de Panama. Il va partir en bateau tout autour du continent et il va refaire la route de Magellan. Et là, c'est simplement comme anecdote parce que je travaille volontiers du côté Patagon, je travaille volontiers sur l'Argentine et ça me fait repenser à un événement qui a été tragique au moment de Magellan. C'est cette arrivée dans la baie de San Julián. Là, on est en pleine Patagonie. Celui Patagon, c'est ceux qui avaient des grands pieds, hein, simplement parce que vous savez, quand vous posez votre pied dans la neige et que la neige fond, obligatoirement la trace de votre pied devient immense. C'est un peu comme pour les Yétis. Et c'est ce que les hommes de Magellan avaient vu sur les plages Patagones. Mais si je reviens à San Julián, c'est parce que Drake va souffrir énormément des mutineries aussi, exactement comme Magellan. Et quand il arrive là, il voit au milieu de l'île, debout véritablement, dans ce paysage absolument désolé du Grand Sud, il aperçoit la potence que Magellan avait dressée pour pendre un marin révolté. C'était en 1522. Or, nous sommes bien sûr pratiquement à la fin de ce 16e siècle. Et là, pour lui, c'est véritablement un signe du ciel. Il va réunir une sorte de cour martiale. Il va condamner le fameux Doughty. Il va le condamner à mort. Il va lui couper la tête devant tous les marins qui sont là maintenant rassemblés. Et il va demander ensuite qui va simplement renoncer. Ou qui va vouloir rentrer en Angleterre, naturellement. Tous se déclarent maintenant prêts à le suivre au bout du monde, parce que c'est vrai, ils vont au bout du monde. Vers le détroit, il va falloir faire une inspection complète des bâtiments. Et là, Drake va constater que Swan, c'est un bateau, hein, que le Christopher aussi ont beaucoup souffert du mauvais temps. Alors il les fait échouer, il enlève tout ce qui est bon encore à l'intérieur du bateau et il les brûle. Ça, c'est quelque chose qui nous rappelle aussi la façon de Cortés. Et puis ensuite, il va changer le nom de son propre bateau. Ça me paraît très intéressant. On s'approche donc maintenant du sud de l'Amérique. Son bateau s'appelait le Pélican. Et dorénavant, il s'appelle Golden Hind. C'est-à-dire qu'il l'a appelé l'Indien doré. Donc, il l'a appelé l'Eldorado. Tout à coup, il sait qu'il rentre dans une partie extrêmement riche du monde. Et à partir de là, enfin, le Pacifique apparaît. Et vous imaginez les acclamations des équipages. Après 52 jours de tempête qui vont suivre, bon, il y aura naturellement des problèmes énormes parce que quand on se met à la place de cet équipage du Golden Hind, on imagine bien que pour atteindre les côtes du Chili, ça n'est pas une petite aventure. Ils vont remonter petit à petit et ils vont mouiller finalement, je raccourcis un peu parce qu'il y a eu des événements dramatiques, ils arrivent dans la rade de Valparaiso. Un très beau nom, Valparaiso. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit, mais ce Chili est tellement long. Valparaiso, c'est un endroit totalement perdu, quand on pense à l'époque. Hein. Donc, ils sont véritablement à pied d'œuvre. Et maintenant, ils savent que depuis Valparaiso, ils vont toucher les parties les plus riches que n'aient jamais réussi à découvrir les Espagnols. Ils avaient quitté l'Angleterre, je vous le dis simplement, 18 mois auparavant. Donc, c'est presque aussi long que le voyage de Magellan. Val, par exemple, c'est une petite bourgade. Et là, bon, ils vont seulement prendre quelques vivres, ils vont faire quelques petits pillages, et ils vont surtout trouver des salaisons, parce qu'ils avaient besoin, effectivement, de nourriture fraîche. Et ils trouvent également un bateau, qui s'appelait Los Reyes, ça veut dire les rois, en fait. Et les rois, comme bateau, c'est extraordinaire. Ils vont prendre les Anglais qui arrivent dans le port pour leurs propres compatriotes, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir pénétrer sur ce bateau comme s'ils étaient obligatoirement espagnols. Personne n'a pu imaginer qu'un Anglais fou avait fait le tour du continent, puisque personne ne l'avait refait depuis Magellan. Et là, en quelques minutes, eh ben, ils vont se retrouver tout à coup avec une valeur, une cargaison d'or incroyable. À l'époque, ça représentait à peu près 80 000 livres. C'est déjà quelques bonnes centaines de kilos de marchandises tout à fait appréciables. Alors maintenant, ces Espagnols qui ne s'étaient pas méfiés, ce qui est curieux, c'est qu'ils vont continuer à réagir de la même manière. Ils montent gentiment. Y a un exemple qui m'a beaucoup plu en relisant les carnets de bord de Drake. C'est par exemple cette plage où ils ont trouvé un Espagnol qui dormait sur la plage à côté d'un tas de barres d'argent. Il attendait qu'on vienne simplement le prendre comme on attend aujourd'hui un bus. Mais jamais on ne pouvait soupçonner qu'il y ait un ennemi sur cette côte. Donc toute la partie gauche de l'Amérique était totalement espagnole et jamais on n'avait vu un bateau étranger s'y balader. Donc le bonhomme était là avec sa fortune à côté de lui, sans même un fusil, sans même le moindre pistolet ou même pas une épée. Alors c'est comme ça que ça va continuer, parce qu'ils vont pouvoir intercepter un peu plus tard, je sais pas, il y a une caravane de lamas par exemple, qu'ils vont réussir à la prendre, à l'attaquer, et il y aura des sacs de poudre et d'argent partout où ils passent, on leur donne carrément des fortunes incroyables parce que personne ne se méfie. Mais petit à petit, il y a quand même un certain bruit qui se répand, c'est normal. Et finalement, il y a quand même quelques petits coups de fusil, il y a même eu un coup de canon avant d'arriver dans la région la plus riche. Mais ce qui me paraît surtout important, c'est qu'ils vont ainsi petit à petit arriver à prendre le meilleur de l'Espagne. Et ils vont même attaquer un bateau, j'aime bien son nom. Je vous le traduis d'abord en français parce que ça peut paraître un peu curieux en espagnol. Ça s'appelle crache-feu. On l'appelle cacafuego en espagnol. Mais c'était quelque chose qui était là pour faire reculer véritablement les Anglais. C'était donc un bateau qui était armé véritablement. Et il portait des trésors qui valaient bien quelques risques. Donc Drake va promettre à son équipage une chaîne superbe en or à celui qui l'apercevrait le premier. Alors ils étaient tous pratiquement, vous voyez les hommes de l'équipage, ils les essayent tous de monter au mât pour être sûr d'apercevoir le bateau en premier. Et finalement, ce Cacafuego, ils vont le rejoindre, ils le suivent gentiment. Ça c'est une tactique très anglaise, c'est très propre aux corsaires. Ils remontent gentiment la côte et c'est à mi-distance entre Callao et Panama, je vous situe la chose. Vous voyez où est Lima ? Lima, c'est la capitale actuelle. Callao, c'est le port de Lima. Donc, ils suivent, un peu comme un chien suivrait une proie, ils suivent ce bateau qui remonte vers Panama, que Drake connaît déjà par le côté terrestre. Et naturellement, l'Espagnol, il va se laisser approcher sans penser du tout qu'il est suivi par un Anglais, une fois de plus. Et c'est seulement lorsqu'ils ont reçu les crocs d'abordage qu'ils comprennent leur erreur. Donc, impossible de résister. Il n'y a même pas une arme à bord. Rien n'a fonctionné à bord. Personne ne s'est défendu. C'est un pillage qui se fait tranquillement. Ça dépasse toute attente. Il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des pierres précieuses. Tout ça, ça va être gentiment transbordé sur le navire anglais. On va l'inventorier, on va l'arrimer. Et puis, il y a un temps magnifique. Il fait beau temps, c'est extraordinaire. Donc, il suffira simplement de rentrer chez soi. Or, rentrer chez soi, essayez de penser où vous êtes. C'est assez fou. Il faut continuer. Alors ce fameux Cacafuego qui est devenu le Cacaplata, comme les Espagnols vont le surnommer, le crash argent, c'est bien sympathique de l'avoir déchargé sur un navire anglais. Mais où faut-il aller maintenant? Eh bien, on ne peut pas revenir en arrière. Donc Drake va continuer et il va faire le tour du monde. Vous avez aimé ce tour du monde? Je crois que vous allez aimer le plus grand fleuve du monde. Nous allons partir des Andes et nous allons plonger sur l'Amazone et nous allons faire un des voyages les plus fous de l'Eldorado. Cet homme, Aureliana, qui va véritablement mercredi prochain vous emmener depuis le sommet de la cordillère faire ses 6000 km avant de découvrir un océan qu'il ne connaît même plus, l'Atlantique, remonter une côte qu'il ne reconnaît pas jusqu'à ce qu'il trouve une ville qui existe déjà et qui est espagnole. Et il comprend enfin qu'il a traversé tout le continent.